VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Villon à ce micro pour le monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mercredi 15 novembre 2023. Le président Joe Biden reçoit son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet de l'APEC. À Gaza, soldats et chars israéliens se sont retirés de l'hôpital Al-Shifa pour se repositionner autour de l'immense complexe. Un couvre-feu nocturne a été instauré à Madagascar à la veille de la présidentielle après plus de 6 semaines de manifestations de l'opposition.
Je pense qu'il n'y a plus de consensus, plus de partis campent sur leur position.
En Grande-Bretagne, la Cour suprême rejette le programme d'expulsion des migrants vers le Rwanda. Ne manquez pas notre page 4 ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Le président Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping sont à San Francisco en Californie. Les deux dirigeants espèrent, grâce à leurs entretiens, éviter la dégradation de la relation tendue entre leurs deux pays. Dilidico.
Pour Joe Biden et Xi Jinping, l'essentiel sera d'assurer que la relation sino-américaine tendue reste sous contrôle. Le président américain doit discuter avec son homologue chinois pendant plusieurs heures près de San Francisco en marge d'un sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. La rencontre commence à 10h45 heure locale, 18h45 TU et se tient dans un domaine huppé. Juste avant ce tête-à-tête, le second en personne depuis l'élection de Joe Biden, le ton se veut conciliant. Nous n'essayons pas de nous découpler de la Chine, a assuré le président américain, pour qui l'objectif est d'être capable de prendre le téléphone et de se parler s'il y a une crise. Il a toutefois estimé que la Chine de Xi Jinping a de vrais problèmes face au rétablissement du leadership américain dans le monde. Nous nous opposons à une définition des relations sino-américaines en termes de concurrence, a dit de son côté une porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Le Kremlin a réagi à la tenue de cette rencontre en jugeant important pour le monde entier le sommet entre Joe Biden et Xi Jinping.
L'armée ukrainienne a réussi à établir des positions sur la rive sous contrôle russe du fleuve Dnipr dans le sud du pays, a admis aujourd'hui pour la première fois un responsable de l'administration installé par Moscou dans la zone occupée. Si l'armée ukrainienne parvenait à percer les lignes russes dans ce secteur, il s'agirait d'un succès important, alors que sa vaste contre-offensive ailleurs dans le pays depuis juin n'a pas eu les résultats escomptés. Le chef du gouvernement espagnol par intérim Pedro Sanchez a défendu aujourd'hui son projet d'amnistie des séparatistes catalans lors d'un débat houleux au Parlement à la veille de son investiture annoncée pour un nouveau mandat de 4 ans. L'armée israélienne a, elle, annoncé dans la nuit dernière qu'elle menait une opération contre le Hamas dans un secteur spécifique de l'hôpital Al-Shifa, une opération qui a suscité des inquiétudes et condamnations. Rosine Monizero.
Depuis mercredi matin, l'armée israélienne disait mener une opération ciblée dans l'établissement où se trouvent, selon l'ONU, environ 2300 personnes, dont des patients, des soignants et des déplacés. Il n'y a aucun endroit à Gaza qu'Israël n'atteindra pas, aucune cachette, aucun refuge, avait prévenu le Premier ministre Benjamin Netanyahou mercredi. Depuis des années, Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux de Gaza comme des bases, d'avoir creusé un réseau de tunnels sous Al-Shifa et de se servir de ses malades comme des boucliers humains, ce que le Hamas nie. L'hôpital Al-Shifa, dans l'ouest côtier de la ville de Gaza, est depuis plusieurs jours au cœur des combats entre l'armée israélienne et les combattants palestiniens. Il représente un objectif majeur pour Israël, qui a juré d'anéantir le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, la Cour suprême britannique a jugé illégal le projet d'expulsion vers le Rwanda de migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Le président rwandais Paul Kagame et le premier ministre britannique Rishi Sunak ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre une politique d'immigration entre les deux pays. Nathalie Barge.
Les magistrats de la Cour suprême britannique ont rejeté à l'unanimité le recours du ministère de l'Intérieur et ont confirmé la conclusion de la Cour d'appel sur l'illégalité de cette mesure. Le gouvernement rwandais a contesté la décision selon laquelle le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile. Le président de la Cour suprême britannique, Robert Reid, a rappelé que le point de vue du HCR, qui avait souligné que le Rwanda rejetait 100% des demandes d'asile de pays comme la Syrie, le Yémen et l'Afghanistan, alors que les autorités britanniques concluent que de telles demandes sont fondées. Devant les députés, Rishi Sunak a indiqué que son gouvernement travaille à un nouveau traité avec Kigali. Selon Downing Street, le Premier ministre britannique et le président rwandais Paul Kagame ont réitéré lors d'un entretien téléphonique leur engagement à faire fonctionner le partenariat d'immigration et ont convenu de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que cette politique soit solide et légale. S'il apparaît clairement que nos cadres juridiques nationaux ou nos conventions internationales continuent de nous entraver, je suis prêt à modifier nos lois et à réexaminer ces relations internationales, a souligné Rishi Sunak. Le projet d'envoyer des migrants au Rwanda, annoncé sous l'ancien gouvernement de Boris Johnson, n'a jamais été mis en œuvre. L'an dernier, un vol a été annulé in extremis après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'Éthiopie a salué aujourd'hui l'annonce de la reprise par l'Agence américaine de développement de la livraison d'aide alimentaire dans l'ensemble du pays suspendue en juin après la conclusion d'un accord de surveillance de la distribution de l'aide. L'USAID a annoncé mardi la reprise des livraisons à partir du mois prochain pour une période initiale d'un an durant laquelle l'agence suivra si l'État éthiopien tient ses engagements sur fond d'accusation de détournement de l'aide au profit de soldats. Le Soudan du Sud a officiellement déployé aujourd'hui ses premières forces unifiées, des centaines d'anciens rebelles et de soldats gouvernementaux dans le cadre du processus de paix mené depuis 2018 dans ce pays secoué par les conflits armés. L'unification des forces fidèles au président Salva Kiir et à son rival, le vice-président Riek Machar, était une condition clé de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à un conflit de 5 ans au cours duquel près de 400 000 personnes ont péri. La veille de la présidentielle, Madagascar impose un couvre-feu nocturne dans la capitale Antananarivo avant le premier tour du scrutin demain. 10 candidats de l'opposition ont appelé au boycott. Le point avec Nani Talani.
Face aux divers actes de sabotage qui se sont déroulés mardi soir, je vais sortir un arrêté instaurant un couvre-feu à partir de 21h00 jusqu'à 4h00 du matin, a annoncé le préfet d'Antananarivo, le général Angelo Ravalonarive. Évoquant l'incendie d'un bureau de vote et la destruction de matériaux électoraux, il a mis en garde contre des actions menant à de possibles arrestations avec circonstances aggravantes en cette période. Il a aussi dénoncé des actes de sabotage après un mois et demi de manifestations à l'appel de l'opposition. 10 candidats de l'opposition rassemblés dans un collectif dont 2 anciens présidents ont appelé les électeurs à ne pas voter. Ils dénoncent des irrégularités dans l'organisation du scrutin, évoquant l'existence de milliers de bureaux de vote fictifs. Le gouvernement accuse l'opposition de menacer la stabilité du pays. 11 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir le prochain président malgache. Officiellement, 13 candidats sont en lice, dont le président sortant, André Rajoel.
Au Libéria, le décompte des voix est en cours au lendemain du second tour de la présidentielle entre le président sortant, George Weah, et le vétéran de la politique, Joseph Boakai. La commission électorale a 15 jours pour publier les résultats, mais pourrait prendre moins de temps. La CEDEAO, qui a déployé des observateurs, a salué dans un communiqué la conduite généralement pacifique des élections jusqu'alors, mais a exprimé son inquiétude face à des déclarations provocatrices et des conférences que prévoient certains acteurs pour crier prématurément victoire. L'ONU a annoncé la reprise aujourd'hui de ses vols humanitaires au Niger, suspendus après le coup d'État de juillet. Cette reprise des opérations aériennes intérieures doit permettre de reprendre la livraison mensuelle de près de 2,4 tonnes de fournitures médicales ainsi que des évacuations médicale et du personnel humanitaire, selon OCHA. Environ 4,3 millions de personnes ont besoin d'aide. Le Niger subit depuis le coup d'État de lourdes sanctions économiques, et financières imposées par la CEDEAO. Cet embargo a créé une grave inflation et des pénuries de certains produits, dont des médicaments. Et puis au Togo, deux journalistes ont été mis en examen et écroués aujourd'hui à Lomé, accusés de diffamation après avoir affirmé sur les réseaux sociaux qu'un ministre s'était fait voler l'équivalent de 600 000 euros à son domicile. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
Depuis 2002, le Bénin a perdu des kilomètres de côte à cause d'une érosion côtière causée par le changement climatique, la montée du niveau de la mer, l'urbanisation et l'agriculture qui menacent les populations et les infrastructures, alertent les océanographes. Si rien n'est fait, d'ici quelques années, la route inter-État Cotonou-Porto Nouveau sera perdue. Le gouvernement a investi des milliards de francs CFA pour lutter contre ce phénomène, mais sans grand succès. L'Allemagne dit être prête à investir dans le gaz et les minerais essentiels au Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, alors que les entreprises allemandes sont aussi disposées à construire des chemins de fer au Nigeria. C'est une aubaine pour Abuja, qui cherche à attirer les investisseurs dans son secteur minier, qui est depuis longtemps sous-développé et contribue pour moins de 1% au PIB du pays. Le PIB du Ghana a augmenté de 3,2% au premier semestre de cette année, une amélioration par rapport à la croissance de 2,9% au cours de la même période en 2022, a déclaré le ministre des Finances Ken Ofori Atta. Par ailleurs, le pays a enregistré un déficit budgétaire global de 3% du PIB entre janvier et le mois d'août, contre un déficit prévu de 4,6% du PIB.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger.
Les clubs protestent contre la suspension des championnats de Ligue 1 au Burkina Faso.
Effectivement, les ligues régionales de football des Hauts Bassins et du Centre menacent de suspendre leur participation aux différentes compétitions organisées par la Fédération Burkinabé de football. Ils réclament entre autres le paiement de 4 mois d'arriérés de subvention pour la saison 2022-2023. Rappelons qu'au Burkina Faso, les clubs de football sollicitent et reçoivent depuis 2014 une subvention de l'État pour soutenir le développement du football. Suite à la bonne utilisation des fonds accordés par l'État et afin de prendre en compte le développement du football dans sa globalité, les acteurs, donc les clubs, fédérations de football et ministères en charge des sports, ont décidé en 2017 de retenir 25% des subventions pour l'organisation du championnat des petites catégories. Et pour la saison 2022-2023, les clubs n'ont pas perçu l'intégralité de la subvention au motif que les 25% retenus par la fédération de football étaient injustifiés.
FIFA 2026, le Zimbabwe et le Rwanda se tiennent en échec.
Tout à fait. Le Zimbabwe et le Rwanda se sont quittés sur un score nul et vierge lors de leur premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ce mercredi. Dans un match très disputé au stade Yaoundé au Rwanda, les deux équipes n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Avec ce match nul et vierge, les deux équipes sont actuellement en tête du groupe C qui comprend également le Rwanda, le Lesotho et l'Afrique du Sud qui seront en action jeudi.
La CAF dévoile les nominations pour les catégorie féminine des CAF Awards 2023.
Oui, la CAF a dévoilé la liste des nominés pour les différentes catégories féminines des CAF Awards 2023. La sélection préliminaire a été réalisée par un distingué panel composé d'experts techniques de la CAF, de légendes et de représentants des médias, en tenant compte des performances à tous les niveaux de décembre 2022 à novembre 2023. Tout comme dans la catégorie masculine, la meilleure gardienne de but sera récompensée pour la première fois afin de célébrer les efforts héroïques des gardiennes de but. 10 joueuses ont été nominées pour le tout premier prix de la gardienne de but de l'année au CAF Award. Dans les autres catégories, 30 joueuses se disputeront le prestigieux titre de la joueuse de l'année que la Nigériane Asisa Oshala a remporté pour la cinquième fois, un record lors de la dernière cérémonie des CAF Awards en juillet 2022 à Rabat au Maroc.
Page des sports VOA Afrique, signé Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. À Madagascar, les autorités ont imposé ce mercredi un couvre-feu dans la capitale, Antananarivo, applicable la nuit précédant le premier tour de la présidentielle. Un scrutin qui va se jouer dans un contexte tendu après un appel au boycott des principales figures de l'opposition. Pour une analyse, Mouamadou Mfa joint Chilavini Randri Amanga, journaliste politique au quotidien Les Nouvelles.
La tension s'explique par il y a l'opposition qui conteste la candidature du président sortant Angela Tchouéla, qui jouit d'une double nationalité. Et la CC a quand même validé cette candidature. Et depuis, l'opposition mène une manifestation face à ce qu'il considère comme une sorte d'illégalité de poids des mesures dans le processus qui, selon eux, a été organisé en faveur du candidat Angela. Et donc, c'est la raison des manifestations qui ont eu lieu depuis près d'un mois. Et ils affirment qu'ils n'ont plus confiance en les processus qui se déroulent actuellement.
Il faut dire que Madagascar est coutumier de telles manifestations. Mais cette fois-ci, les manifestations surviennent avant l'élection.
Oui, c'est ça. Les manifestations surviennent avant les élections. Mais avant, c'était des manifestations post-électorales. Mais maintenant, c'est différent.
La plateforme de l'opposition réunissant une dizaine de candidats ont appelé à ne pas aller voter. Comment comprendre cette stratégie et quelle est sa pertinence?
Cette stratégie, c'est surtout pour décrédibiliser le processus qui, selon eux, est entaché d'irrégularité. Et c'est donc, en quelque sorte, votre sanction, c'est pour décrédibiliser le processus électoral. Et donc, ils ont invité leurs partisans à ne pas participer au vote.
On s'achemine donc visiblement vers une réélection du président sortant. Pourra-t-il vraiment gouverner face à toute cette contestation, l'armée n'étant jamais loin de la scène politique comme on l'a vu en 2009?
Ça aura un impact sur la légitimité du président qui sera réélu. Ça a surtout un impact sur la stabilité politique après, puisque il arrive que les candidats mal élus se trouvent dans une sorte d'atmosphère d'instabilité après sa réélection, comme c'était le cas pour l'ancien président Marc Ravalomanana en 2006. Il n'a pas pu rester au pouvoir pendant plus de 3 ans avant d'être renversé.
L'élection a lieu demain. Est-ce qu'un consensus est encore possible selon vous?
Je pense qu'il n'y a plus de consensus. Les deux partis campent sur leur position. Il y a l'opposition qui demande la suspension du processus électoral et de l'autre côté, les gouvernements et les candidats qui se sont engagés dans le processus demandent à ce que l'élection ait lieu à la date convenue, c'est-à-dire le 16 novembre.
Chilavini Randri Amanga, journaliste malgache.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Après 10 ans d'absence dans la région de Kidal, l'armée malienne et ses partenaires russes ont pris le contrôle de la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Les populations de la région de Gao, qui ont connu les atrocités de la rébellion de 2012, ont accueilli avec une grande joie cette bonne nouvelle. Elles invitent le gouvernement de la transition à s'y mettre davantage pour stabiliser le Mali. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Sont-ils capables ou pas de reprendre la ville stratégique de Kidal aux combattants du CSP? La réponse à cette question a été donnée hier dans la matinée. Après des jours de combat intenses dans la zone, les soldats maliens ont fait leur entrée dans la ville rebelle de Kidal hier mardi 14 novembre 2023. C'est un tournant dans le Mali-Koura que proposent les autorités de la transition. Ce matin donc, nous avons tendu notre micro dans les rues de Gao. Voici la réaction des personnes interrogées.
Si tous les Maliens sommes comme moi, vraiment c'est un jour de satisfaction, un jour de plaisir. Et c'est ce qu'on attendait justement de notre armée.
Plus de 10 ans, voire 11 ans que l'armée est totalement, si on peut le dire, absente au niveau de la ville de Kidal. Donc aujourd'hui, si elle arrive à prendre la ville de Kidal, franchement, les mots me manquent pour exprimer ma joie grâce aux 5 colonels.
Si l'armée a été vraiment à la hauteur, ça veut dire que le peuple a accepté beaucoup de choses. Le peuple s'est sacrifié depuis ce temps. Ces colonels, vraiment, coup de chapeau. Coup de chapeau, puisqu'on a compris qu'au sein même de l'armée, vraiment une réorientation de la mentalité. Les gens, les hommes ont changé de mentalité, les hommes sont devenus des nationalistes, ils ont accepté ce sacrifice. Parce que sans sacrifice, personne ne pourrait le faire. Sans sacrifice, personne ne pourrait y arriver.
C'est un sentiment de satisfaction. On est vraiment content de ce que l'armée malienne a eu à faire à Kidal. Ça fait 11 ans ou 10 ans d'absence. On est fiers de notre armée. On est très content de notre armée malienne. Vraiment, on remercie beaucoup la Russie. On remercie beaucoup notre président Assimi Goïta. On remercie beaucoup les 5 colonels de l'armée malienne.
Pour toutes les personnes interrogées, la prise de Kidal est une étape importante dans le processus de réconciliation. Mais attention, beaucoup reste à faire pour stabiliser le Mali.
Kidal, pour moi, pour que cette paix à laquelle nous aspirons soit et demeure, doit être transformée en une région militaire où tout est géré par nos forces armées et de sécurité. Pour occuper chaque centimètre carré du territoire, pas de la ville de Kidal, mais de la région de Kidal.
Que le Mali reste toujours aux aguets, que le Mali reste toujours prudent, parce que la guerre ne fait que commencer.
Et nous invitons nos autorités de la transition, plus particulièrement les autorités militaires, à prendre toutes les dispositions pour vraiment s'occuper, veiller et protéger la population et leurs biens. Surtout ceux qui n'ont pas fui, ceux qui ont cru à leur venir, ceux qui ont cru que la montée en puissance de l'armée, ce n'était pas des vains mots, c'était des réalités de terrain. Et ceux qui ont quitté le pays, ceux qui ont fui parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas raison, nous pensons qu'aujourd'hui, quelle qu'en soit la situation, nous sommes tous des Maliens. Le retour au bercail n'est pas interdit.
La paix, elle doit être active. Il faut que les populations s'asseyent encore pour parler. Il faut éviter l'amalgame. Et la paix, ce n'est pas seulement les armes, comme je l'ai dit, mais il faut travailler, il faut aller vers le développement maintenant. Je ne vous dis pas, les Maliens ont crié, particulièrement ici dans la région. Tous les produits sont allés à un prix très exorbitant. Il faut travailler à ramener tout ça à la séance. C'est ça qu'on peut amener la paix. Parce que quand on a faim aussi, on est tenté par beaucoup de choses. On est tenté par le diable. Quand on a soif, on est tenté par le diable. Donc il faut aller apaiser ces mots qui peuvent détruire la société.
Kao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, l'État de Benoué accueille plus de 2 millions de réfugiés, dont quelques 10 000 venant du Cameroun voisin. Une crise qui a un impact sur l'insécurité. Le gouverneur a même rencontré le chef de l'armée nigériane pour demander de l'aide à rétablir la paix afin que les agriculteurs puissent retourner dans leurs champs. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, s'est rendu dans l'un des centres de déplacés à la périphérie de Makurdi, la capitale du Benoué. Voici son reportage.
Dans le camp des déplacés de Daoudou, près de Makurdi, la capitale de l'État de Benoué, vivent quelques 20 000 déplacés internes. La montée des violences et meurtres ont poussé plusieurs agriculteurs, craignant pour leur vie, à quitter leurs terres. Beaucoup ont été tués dans leurs champs et leurs villages. Janet Aondowa vit dans ce camp depuis plus de 10 années.
Nous étions à la maison, puis nous sommes allés au champ quand nous avons vu les éleveurs Peul arriver et ils ont commencé à tirer et ont tué un homme par balle. Nous avons couru pour revenir au village pensant que c'était fini, mais ils sont venus au village et ils ont tué beaucoup de personnes cette nuit-là. Mais nous avons eu la chance de nous échapper et nous retrouver dans ce camp de déplacés.
Dans ces camps de déplacés de Daoudou, la fatigue et le désespoir sont visibles sur les visages de toutes les femmes, les filles, les garçons et les pères de famille désorientés par ce qui s'est passé dans leur village avant de se retrouver dans ces camps. Philomena Tewasi, femme déplacée.
Nous ne sommes pas à l'aise ici, mais nous n'avons pas le choix car nous ne pouvons pas rentrer chez nous où notre sécurité n'est pas garantie. Si nous rentrons sans sécurité, nous serons à nouveau attaqués.
Ils ont été chassés de leur foyer par des affrontements entre éleveurs et agriculteurs et contraints de vivre dans des conditions très difficiles. Fabien Gbenga, président du camp de Daoudou, et Festos Tenenge, homme déplacé.
Nous sommes dans ce camp depuis trop longtemps. Je veux rentrer chez moi dans mon village. Rester dans ce camp nous soumet à beaucoup de contraintes. Je ne veux plus rester ici. Nous sommes restés trop longtemps dans ce camp.
La vie n'est pas facile dans ce camp. Même se nourrir est difficile. Certains de nos enfants ne sont pas retournés à l'école à cause de cette situation. Certains ont fini l'école primaire, mais ont eu du mal à continuer leurs études. Cette situation a conduit aussi au mariage précoce de certaines filles et au trafic d'êtres humains.
Le gouvernement de l'État de Benue plaide auprès des agences de sécurité pour permettre le retour des déplacés. Mais dans quelle mesure cela va contribuer à réduire la pauvreté au moment où le Nigeria subit durement les effets de la suppression des subventions sur le carburant qui a quadruplé les coûts de transport et a affecté les prix des produits de première nécessité? Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Makurdi dans l'état de Benue.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Guinée équatoriale, le phénomène de disparition des enfants défait la chronique. Il ne se passe plus deux jours sans la disparition de mineurs. Plus de 12 enfants sont portés, donc disparus. Certains ont été retrouvés morts, mutilés et jetés dans des puits. D'autres restent introuvables. Les détails avec notre correspondant à Malabo, Samuel Obiang Mbana.
Le phénomène est nouveau dans le pays et préoccupe au plus Angeline Ntama, une enseignante, ne cache pas son indignation.
Là où les enfants sont victimes des enlèvements de grandes personnes, et mon point de vue est que c'est cruel, c'est criminel, c'est inhumain, parce que si nous avons eu la possibilité de grandir et d'être des gens adultes, des gens de société, des gens bien, je pense que nous devons laisser à nos enfants pouvoir jouir de cette situation, jouir de leur jeunesse et qu'ils puissent devenir des grandes personnes. Enlever un enfant, c'est détruire toute une famille. Je vais vous donner ma pensée. Déjà, comme humaine, c'est inhumain. Et comme chrétienne, c'est très dangereux. L'enfer est réel. Tout ce qu'on fait de mal, on le paye. Tôt ou tard, vous allez le payer.
Les enlèvements d'enfants suscitent beaucoup de panique car l'année scolaire vient de commencer. 13 disparitions d'enfants ont été signalées. Certains corps ont été retrouvés mutilés dans des puits. Pour Oscar Bengomo, professeur de lycée, la disparition d'un mineur plonge les familles dans la désolation.
Notre société est affectée par ce phénomène qui réellement déjà.
Notre société est affectée par ce phénomène qui réellement a plongé dans la désolation les uns des parents et la famille. Le peu d'enfants qu'on a découvert déjà morts, certains ont des organes coupés. Ce phénomène est déjà là qui affecte drastiquement la société car les parents pensent et vivent avec la peur.
Païssa, un des défenseurs des droits de l'homme, estime que ces meurtres sont à des fins de rituels.
Parece que la desaparición de niños
Il semblerait que la disparition des enfants soit liée à des sacrifices rituels pour accéder à des postes politiques, quitte à tuer des enfants qui sont innocents.
A inocentes, a niños que no tienen absolutamente nada que ver.
Face à la montée de ce phénomène, le vice-président chargé de la défense et de la sécurité, Théodore Ngamoubian, est monté, a mis en alerte les forces de l'ordre pour traquer les ravisseurs et commanditaires. Il a interdit les déplacements d'enfants durant les heures nocturnes et la fermeture des puits. Un nombre de voyages pour les mineurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, est maintenant requis, etc. Pour Kotine Loyeto, défenseur des droits de l'homme, avec le manque d'état de droit dans ce pays, l'impunité a fait son lit.
En Guinée équatoriale, non existe la fuerza de la ley, la fuerza de la
loi. En Guinée équatoriale, la force de la loi n'existe pas. Un défenseur des droits de l'homme, disons que dans ce pays, c'est l'état de non-droit qui est la norme. Et là où il n'y a pas de droit, c'est toujours la porte ouverte à toutes sortes de violations et à l'impunité.
Toute classe de violations et d'impunité.
La disparition d'enfants continue et pour le moment, aucun commanditaire ni ravisseur n'a été interpellé. Samuel Obiambana Malabo pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.